Merci d'écouter RFI. Il est 22h à Paris, 1h30 à Colombo.
Clémentine Pavlotsky.
Bonsoir à tous. Bienvenue dans votre journal en français facile, présenté ce soir avec Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie.
Bonsoir Clémentine, bonsoir à tous.
À la une, la démission du Premier ministre du Sri Lanka. Le chef du gouvernement a quitté ses fonctions après de violents affrontements. 5 personnes sont mortes.
L'actualité de ce 9 mai, c'est aussi la fête de la victoire en Russie. Une journée qui marque la victoire de l'URSS sur l'Allemagne nazie. En 1945, le président russe Vladimir Poutine a tenu un discours. Il a bien sûr évoqué le conflit en cours avec l'Ukraine.
Et justement, nous irons à Kiev, la capitale ukrainienne. Reportage à suivre auprès de ceux qui ont célébré ce 9 mai. Nous verrons comment ils ont réagi au discours de Vladimir Poutine.
Et puis la Chine qui montre ses muscles, Pékin mène actuellement une série d'exercices militaires au large de Taïwan.
Le journal en français facile.
Le Premier ministre du Sri Lanka a donc démissionné.
Oui, Mahinda Rajapakse a quitté ses fonctions aujourd'hui après des affrontements. Affrontements entre ses partisans et des manifestants anti-gouvernementaux. Ces violences ont fait 5 morts et plus de 180 blessés. Il s'agit de la journée la plus meurtrière depuis 3 semaines au Sri Lanka. Depuis plusieurs semaines, des manifestations secouent le pays. Les protestataires dénoncent l'incapacité du gouvernement à faire face à la très grave crise économique. Cette démission du Premier ministre est donc une bonne nouvelle pour les manifestants, mais leur combat n'est pas terminé. Sébastien Farcy.
Le sang a été répandu dans les rues de Colombo. En milieu de journée, des centaines de partisans du Premier ministre ont attaqué à coups de matraque les manifestants pacifiques qui se trouvaient face à la résidence du président Gotabaya Rajapakse, ce qui a entraîné une vague incontrôlable de violence. Ce n'est qu'après que son frère, le Premier ministre Mahinda Rajapakse, a présenté sa démission. Pour Shamas Gous, un manifestant venu sur le principal site de protestation, ce départ du Premier ministre n'est que la première étape.
Habituellement au Sri Lanka, quand les politiciens populaires démissionnent, on entend des pétards de célébration. Pas cette fois. Les gens sont contents que quelque chose soit arrivé, mais ne se réjouissent pas, car l'objectif de tout le monde, c'est la démission du président. Et un nouveau dirigeant doit être choisi par les parlementaires pour diriger le pays.
La priorité est maintenant de rétablir l'ordre car l'assaut contre les manifestants a entraîné une réaction de colère et de violence. Des protestataires ont ainsi mis le feu à la maison d'un ministre et de la famille des Rajapakse. Sébastien Farcy, New Delhi, RFI.
Dans l'actualité, il y a également les Philippines où le fils de l'ex-dictateur Marcos remporte la présidentielle.
Ferdinand Marcos Jr., fils du défunt dictateur du même nom, remporte le scrutin 36 ans après la chute de son père. Ce dernier avait été renversé par une révolte populaire. C'était en 1986. La famille Marcos avait alors dû s'exiler aux États-Unis, partir aux États-Unis. Elle est ensuite rentrée au pays et a reconstitué un puissant réseau politique.
Le journal en français facile.
Joe Biden réactive pour l'Ukraine une loi d'assistance militaire datant de la Seconde Guerre mondiale.
Oui, le président des États-Unis a signé aujourd'hui devant les journalistes une loi qui permet d'accélérer l'envoi d'équipements militaires à l'Ukraine. Cette loi était initialement destinée à aider l'Europe à résister à Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est ce que précise la Maison-Blanche. Le texte a été soutenu par presque tous les membres du Congrès.
Et ce texte a été promulgué alors que la Russie marquait aujourd'hui la fête de la victoire.
Tous les 9 mai, les Russes célèbrent et commémorent la victoire de l'Union soviétique sur l'Allemagne nazie en 1945. Il s'agit d'ailleurs d'une des célébrations les plus importantes du calendrier russe. Mais cette année, ce n'est pas la Seconde Guerre mondiale qui occupait les esprits, c'est surtout l'Ukraine où l'armée russe poursuit son offensive militaire. À cette occasion, le président russe Vladimir Poutine a tenu un discours. Il affirme que cette guerre sert à défendre la patrie russe face à une menace inacceptable. On l'écoute.
Le bloc de l'OTAN a commencé le développement militaire actif des territoires dans notre voisinage immédiat. Une menace absolument inacceptable pour nous a été créée avec systématisme, directement à nos frontières. Tout indiquait qu'un affrontement avec les néo-nazis serait inévitable. La Russie a repoussé préventivement l'agression. C'était une décision forcée, opportune et juste.
Voilà, extrait du discours du président russe Vladimir Poutine. Et en Ukraine, où les cérémonies officielles ont été annulées à cause du conflit actuel, des habitants de Kiev, la capitale, ont tout de même tenu à se recueillir devant le mémorial de la Seconde Guerre mondiale. Reportage de Muriel Paradon et Sami Boukhelifa.
Des prêtres orthodoxes chantent une prière devant le mémorial du Parc de la Gloire. Quelques personnes, pour la plupart âgées, sont venues se recueillir et déposent des œillets rouges en hommage aux Ukrainiens tombés durant la Seconde Guerre mondiale. Alexander a 65 ans et il est très ému.
Aujourd'hui, c'est le jour de la victoire pour le peuple soviétique durant la Grande Guerre patriotique. Ce sont les commémorations les plus émouvantes. Nous avons les larmes aux yeux, car aujourd'hui, nous rendons hommage à nos morts et à nos héros.
La plupart de ces personnes âgées refusent de commenter la guerre actuelle entre la Russie et l'Ukraine, nostalgiques d'un temps où les deux pays étaient réunis sous un seul bloc, l'Union soviétique. Mais Félix, lui, est d'une autre génération. À 43 ans, il n'hésite pas à condamner Vladimir Poutine et son invasion de l'Ukraine.
Nous avons gagné la guerre il y a 74 ans et nous gagnerons cette fois-ci. L'idéologie nazie n'a pas disparu. Elle existe toujours et nous devons tout le temps la combattre. De quel côté elle se trouve? Posez-vous la question. Qui a envahi l'Ukraine?
Pour Félix, dont le grand-père a combattu durant la Seconde Guerre mondiale, cette cérémonie réduite au minimum cette année à cause de l'invasion russe a un goût bien amer. Muriel Paradon, Sami Boukhelifa, Kiev, RFI.
Et le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lui aussi tenu un discours. Il assure que son pays ne laissera pas Moscou s'approprier la victoire sur le nazisme. Le dirigeant se dit aussi confiant dans une victoire prochaine de l'Ukraine contre les forces russes.
La Chine mène une série d'exercices militaires au large de Taïwan.
L'Armée populaire de libération a annoncé ce lundi avoir mené la semaine dernière une série d'exercices militaires au large de Taïwan, pays démocratique considéré par Pékin comme une de ses provinces historiques. Depuis jeudi dernier, Taipei comme Tokyo avaient identifié des mouvements de navires et d'avions militaires chinois dans la zone. Des précisions d'Adrien Simor.
Un porte-avions et cinq destroyers, accompagnés par le vol régulier d'avions et d'hélicoptères. C'est un exercice d'envergure qu'a mené Pékin entre vendredi et dimanche dernier au large de Taïwan et que l'armée populaire a confirmé ce lundi matin. Selon les experts taïwanais, le porte-avions chinois évoluait à environ 500 km à l'est des côtes taïwanaises. Mais plusieurs avions ont aussi pénétré dans l'espace d'identification aérien taïwanais, près d'une vingtaine pour la seule journée de vendredi dernier. C'est la première fois depuis le début de la guerre en Ukraine que Pékin mène de tels exercices. Des manœuvres qui se sont multipliées depuis deux ans et la réélection de la présidente souverainiste Tsai Ing-wen. Depuis le début de l'année, près de 400 incursions d'avions militaires chinois ont ainsi été recensées par Taïwan. Taïwan qui envoie en retour ses propres jets pour repousser les appareils chinois, comme ce fut le cas vendredi dernier. Nous sommes déterminés à nous défendre face à la Chine, a d'ailleurs rappelé ce matin Joseph Wu, le ministre des Affaires étrangères taïwanais. Adrien Simor, Taipei, RFI.
Et en France, François Fillon condamné à de la prison ferme en appel. L'ancien premier ministre français écope d'un an ferme dans l'affaire des emplois fictifs de son épouse Pénélope, Marine de la Moissonnière.
4 ans de prison, dont un ferme pour François Fillon, contre 5 ans, dont 2 fermes en première instance, ainsi que 375 000 euros d'amende et 10 ans d'inéligibilité. Quant à Pénélope Fillon, elle s'est vue infliger 2 ans de prison avec sursis et 375 000 euros d'amende. Mais le couple s'est immédiatement pourvu en cassation. Les peines sont donc suspendues le temps que le recours soit examiné. Depuis le début, François et Pénélope Fillon contestent tout emploi fictif. Lors de leur procès en appel en novembre dernier, ils ont maintenu cette ligne de défense. L'ancien Premier ministre réaffirmant que sa femme avait bien travaillé à ses côtés sur le terrain. Une version des faits qui n'a pas convaincu la Cour d'appel de Paris, qui les a donc à nouveau reconnus coupables de détournement de fonds publics, complicité et recel d'abus de biens sociaux. sauf en ce qui concerne l'un des trois contrats d'assistante parlementaire de Pénélope Fillon. Pour celui-là, le couple a été relaxé au bénéfice du doute.